Chapitre 2. Port de Hong Kong. Les enfants, que fait-on cette année? Devant Cléo, 26 petites mains se levèrent. L'institutrice hésita avant de choisir l'un des doigts tendus. Vas-y, Kenny.
Le centenaire de la téléportation, madame.
Bien, Kenny. Très bien. Cléo avait choisi volontairement Kenny, l'un de ses élèves les plus turbulents, pour donner cette réponse qu'aucun des 26 enfants, même du haut de leurs 9 ans, ne pouvait ignorer. Elle leur en parlait en classe, chaque matin, depuis une semaine. Le centenaire. Elle avait préparé avec soin sa sortie scolaire. Elle évitait, autant qu'elle le pouvait, à l'inverse de nombreuses enseignantes, de passer son temps à promener sa classe aux quatre coins de la planète. Elle tenait à apprendre aux enfants à s'asseoir sur une chaise, à rester concentré 1 heure sur un cours de grammaire et à ce qu'une sortie tous ensemble soit un événement exceptionnel, préparé, intégré dans un long et lent programme pédagogique. Et ça fonctionnait. Même ce Kenny, plus agité qu'un colibri, avait compris. Par contre, Cléo appréciait moyennement qu'il l'appelle madame.
« Cléo,
Kenny, appelle-moi Cléo, ou mademoiselle à la rigueur. » Certains élèves gardaient toujours leurs bras levés, d'autres attendaient la question suivante.
« Excellente réponse !»
insista Cléo en souriant à Kenny.
« La première téléportation de l'histoire, on l'appelait alors par son nom complet la téléportation quantique, a été réalisée il y a exactement 100 ans, en 1997, par le professeur Anton Zeilinger, à Innsbruck. Il est parvenu à téléporter, sur une distance de quelques centimètres, des grains de lumière appelés photons.
L'exploit ne parut impressionner que modérément ses élèves.
« Et maintenant, les enfants ?» enchaîna Cléo. « Qui peut nous dire où nous sommes ?»
Les élèves tournèrent les yeux dans tous les sens, se tortillèrent, se tordirent le cou. Ils ne voyaient rien d'autre qu'une gigantesque pièce où l'on aurait pu faire tenir des milliers de personnes. Un énorme entrepôt de briques et de fer. Vide. Froid. Tous les enfants laissèrent pendre leurs bras. Pas un n'osa risquer une réponse. Cléo tiqua. Elle avait essayé de leur faire comprendre, plusieurs fois, schéma à l'appui, ce qu'était un hub. Ils n'avaient rien retenu. Les notions de position dans l'espace, de latitude, longitude, centre, périphérie, étaient l'un des apprentissages les plus compliqués pour ces élèves, une sorte d'abstraction mathématique. Il n'existait pour eux que des lieux, sans aucune relation entre eux. Des lieux qui se rangeaient seulement dans 2 catégories. Soit chez moi, soit ailleurs. Ici, dans cet entrepôt, c'était ailleurs. Ailleurs et moche.
Nous sommes à Hong Kong, les enfants, expliqua avec patience Cléo. Au sud de la Chine. C'était un des plus gros hubs du monde. Il a été construit dans le début des années 2040, quand on a commencé à savoir téléporter de plus gros objets.
Cléo montra du doigt des idéogrammes peints sur les murs, à moitié effacés, mais dont on pouvait encore deviner les dessins. Les élèves écarquillèrent les yeux, intrigués par ces symboles étranges.
« Ce sont les traces du vieil alphabet chinois, » précisa l'institutrice. « Un alphabet que seuls les Chinois pouvaient lire. »
Elle réalisa que cette simple explication était trop abstraite. Aucun enfant de 9 ans ne pouvait imaginer qu'il y a moins d'un siècle, les êtres humains parlaient et écrivaient différentes langues sans être capables de se comprendre.
« Ne pas tout mélanger, » pensa Cléo.
Elle essaya de se concentrer sur l'objectif de la première étape de sa sortie scolaire, que les enfants se souviennent de cette courte parenthèse de l'histoire du monde, les hubs, oubliés d'ailleurs par un grand nombre d'adultes même. Elle fit signe aux élèves de se rassembler autour d'elle.
« Les enfants, il a fallu attendre beaucoup d'années pour qu'on passe de la première téléportation d'invisibles grains de lumière, il y a un siècle, à celle d'objets plus gros. Les premières expériences réussies datent des années 2030. Pour vous situer, c'est à peu près l'époque où vos grands-parents avaient votre âge. Les progrès cette fois ont été rapides. En moins de 10 ans, on est passé de la téléportation de petits objets, des pièces de monnaie, des stylos, des livres, à de très gros, comme des tables, des lits, des congélateurs, sur des distances de plus en plus longues. Ça ne changeait rien à la technique de la téléportation quantique, cela demandait juste beaucoup plus d'énergie. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que dès qu'elle a été fiable, la téléportation quantique a remplacé tous les autres moyens dont on disposait avant pour transporter les objets d'une partie du monde à une autre, les camions, les avions et surtout les bateaux.
Tout le monde sait ce qu'est un bateau ?
Les enfants hochèrent la tête pour confirmer. Mais Cléo n'était pas certaine que tous aient déjà vu à quoi ressemblait un porte-conteneur, un paquebot ou un voilier. Le concept de bateau se résumait pour la plupart d'entre eux à un objet qui flotte sur l'eau. « Avant qu'on invente la téléportation, » essaya de préciser Cléo, « on transportait tout ce dont on avait besoin pour vivre, la nourriture, les habits, les meubles, les jouets, dans de grosses caisses qu'on empilait sur des bateaux, de très gros bateaux, qui traversaient les mers et les océans pour arriver dans des villes qu'on appelait des ports, pour que tout soit distribué ensuite aux usines, aux magasins et aux gens qui habitaient autour. Vous comprenez ?» Moins d'un tiers des élèves la suivaient. Elle avait perdu les autres, Kenny le premier. Il commençait à montrer des signes d'agitation et de dispersion. Elle insista vaillamment. Avec l'invention de la téléportation, ces caisses, qu'on appelait des conteneurs, pouvaient être directement envoyées d'un bout du monde à l'autre, sans passer par les routes, le ciel ou les océans. Elles étaient, par exemple, expédiées d'Amérique et réapparaissaient en Asie ou en Australie. Mais attention, les enfants! Il faut imaginer qu'à l'époque, les moyens de téléportation n'étaient pas aussi miniaturisés qu'aujourd'hui. Les derniers élèves attentifs observèrent le TPC attaché à leur poignet. Les centres de téléportation occupaient une pièce entière, nécessitaient une énergie exceptionnelle et surtout avaient besoin d'immenses entrepôts pour réceptionner et réexpédier des millions de conteneurs. À partir de 2042, une vingtaine de ces grands centres ont été construits dans le monde, le plus souvent à la place des anciens ports, comme ici, à Hong Kong. On les a appelés des hubs. Seules deux élèves, les plus sérieuses, Sarah et Dorothée, notèrent le mot. Les villes-ports étaient déjà énormes avant l'invention de la téléportation, mais elles ont continué de pousser à la vitesse des champignons autour des hubs, et certaines ont atteint jusqu'à 100 millions d'habitants. Il a fallu attendre les années 2050, c'est-à-dire à peu près quand vos parents sont nés, pour que l'on commence à miniaturiser la téléportation et qu'on parvienne à construire des hubs dans des villes plus petites. Cléo avait presque perdu la totalité de sa classe. Seules Sarah et Dorothée l'écoutaient encore. Les autres jouaient dans la poussière, couraient d'un mur à l'autre et dès qu'ils étaient assez loin, criaient pour provoquer l'écho dans le gigantesque hangar vide. L'institutrice soupira. Désormais, c'était l'une des données que fournissaient les rapports de l'Organisation mondiale de l'éducation, dès qu'un enfant restait plus de 10 minutes dans un endroit sans se téléporter, il s'ennuyait. Cléo intervint en haussant la voix. « Les enfants, regardez autour de vous. Observez la hauteur des murs et imaginez des caisses empilées sur plus de 100 mètres de haut, apparaissant, disparaissant toute la journée. » Les enfants s'en fichaient. Ça ne représentait rien pour eux. Ni pour elle non plus, Cléo devait bien l'avouer. Elle n'était pas née en 2050. Ces images de villes tentaculaires paralysées, de camions et voitures bouchonnant autour des hubs pour distribuer les produits de consommation à des gens regroupés le plus près possible, circulant dans des trains souterrains, habitant dans des tours aussi hautes que les piles de conteneurs, oui, toutes ces images d'apocalypse ressemblaient, pour elle autant que pour ses élèves, à une sorte de préhistoire lointaine, et insupportable. Comment les gens avaient-ils pu vivre ainsi? Une vibration à son poignet l'attira de ses pensées. Un message. Elle baissa machinalement les yeux vers son TPC. Un message de sa mère. Il ne manquait plus qu'elle. Comme si maman n'était pas au courant que sa fille était en classe à 7 heures. Cléo essaya de dissimuler son agacement. Elle lirait son message à la sortie de l'école, si elle y repensait. Les enfants, regroupez-vous! Cléo frappa plusieurs fois dans ses mains, ordonna à nouveau de se rassembler et, rapidement, un cercle redevenu docile de 26 élèves l'entoura. Tous avaient deviné qu'on allait enfin quitter cet entrepôt sans fenêtre, sans lumière et sans intérêt. Et ensuite, après les hubs, qui sait ce qui s'est passé? Cette fois, toutes les mains se levèrent, même celle de Kenny. Oui, Sarah? Cléo avait décidé de récompenser l'une des deux élèves restées attentives jusqu'au bout de son explication. La pauvre Sarah n'eut pourtant pas le temps de parler. Une dizaine de ses camarades crièrent leur réponse avant même qu'elle ouvre la bouche. « Yuki! Yuki !»« Yuki, mademoiselle !» parvint tout de même à glisser Sarah. « Une souris blanche. Yuki a été le premier animal téléporté le 29 septembre 2051. » Des élèves confirmèrent, d'autres s'excitèrent. Tous connaissaient cette histoire, l'avaient vue à la télévision, l'avaient lue dans un livre, avaient dormi avec une Yuki en peluche ou porté son museau rose sur un t-shirt. Yuki était aujourd'hui aussi populaire que Mickey était au siècle dernier.
Bravo les enfants! Maintenant, restez autour de moi. Je vais régler vos TPC sur la seconde étape de notre sortie. Ouvrez grand vos yeux. Nous allons tous nous téléporter dans le musée de la locomotion.